milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, reportage en Iran, à Téhéran, dans l'intimité des cercles féminins, dans un pays qui vient de réélire pour un second mandat le président modéré Hassan Rouhani, artisan de l'accord sur le nucléaire iranien avec 57% des voix. L'Iran qui consomme désormais grâce au lever des sanctions économiques, mais l'Iran qui n'a pas levé le carcan sur les femmes. Interdiction de sortir dans la rue sans couvrir ses cheveux, son corps, interdiction de quitter le pays sans autorisation de son mari, interdiction de chanter en public, la liste est aussi longue que les contournements et les compromis. Être une femme en Iran ou l'aménagement d'un mode de vie avec des fêtes, avec des petits amis, avec des études, défier le régime en copiant des séries télévisées américaines, transgresser les règles avec un smartphone connecté au reste du monde. Comment s'accommodent les Iraniennes de leurs conditions? Elles qui aujourd'hui refusent les mariages arrangés, entendent étudier, travailler pour certaines, comment envisagent-elles leur avenir en Iran et ailleurs? Bref, à quoi rêvent les Iraniennes? Bonjour Charlie Dupio.
Bonjour.
Vous êtes partie à Téhéran à la rencontre de ces femmes qui ont entre 20 et 30 ans, voire plus. Comment vous avez recueilli une parole libre?
En allant chez elles, en fait. J'ai pu me faufiler dans l'intimité de leur chambre à coucher, de leurs doutes, de leurs aspirations. Et une fois le micro ouvert, c'était difficile de les couper. Adolescentes en amourées, célibataires coquettes, épouses traditionnelles et divorcées méprisées, elles incarnent un visage de l'Iran que l'on connaît moins. Certaines témoignent d'une vraie curiosité, même sans être jamais sorties d'Iran. C'est le cas de cette étudiante qui préfère rester anonyme et qui a appris le français à l'université. Elle tient difficilement en place dans le joyeux bordel qui fait office de chambre pour elle. Sur son t-shirt, un message au milieu des petits cœurs, « Embrasse-moi » en lettres rouges et en français.
Sarah a déjà fait le thé.
Sarah, c'est ta colocataire.
Ouais. Waouh, merci.
Merci pour ce thé. Vous partagez votre chambre avec deux autres filles?
Oui, avec deux autres filles. Elles sont bien, elles sont sur le point de se marier. Elles ont leurs problèmes.
Leurs problèmes?
Oui, et on a nos problèmes avec nos amis.
Amis au masculin.
Oui.
Quel problème tu as avec tes amis?
Par exemple, mon précédent... Il s'appelait Ali. Il m'a demandé la main en mariage. Et moi, je lui refusais. Car vraiment, il n'était pas convenable pour le mariage.
Pourquoi?
Il était un garçon avec une pensée religieuse. Moi, je n'aime pas les garçons avec une pensée religieuse. Tu sais, je ne veux pas me marier avec un garçon qui me traite comme une prisonnière. Je ne suis pas une prisonnière, je suis une fille libre. Alors, je veux vivre. Je ne suis pas obligée de rester chez moi et faire la cuisine, faire le ménage et attendre derrière la porte que mon amour arrive.
Et qui t'a inculqué ça, tu penses? D'où ça te vient, cette envie d'être libre?
C'est peut-être par les films d'abord. Et... la littérature française a joué un rôle très important dans ma vie. J'ai compris qu'il y a des autres mondes. Les livres m'ont préparé pour que je puisse penser à d'une autre façon pendant la période de licence. Tu sais, je me suis née dans une famille religieuse. Alors, moi, j'ai le cerveau et je l'ai dit à mes parents. C'est moi qui décide pour moi-même. Moi, mon père, c'est bien que je suis avec Ali.
Que tu as des relations amoureuses.
Oui, oui, oui. Et il ne sait pas que je reste quelques nuits chez mon ami Alex. C'est-à-dire que dans la rue, je ne peux pas baiser les lèvres de mon petit ami. Mais au cachette, par exemple, chez lui, je peux le faire. Et quand je suis venue à Téhéran pour continuer la maîtrise, c'est pourquoi que j'ai changé de mentalité. Et en plus, à Téhéran, ici, c'est une atmosphère beaucoup plus ouverte qu'Isfahan.
Isfahan, c'est une ville à 600 km au sud de Téhéran, où vit ta famille et où tu vivais jusque-là.
Ouais, c'est une ville religieuse. Moi, je n'ai pas envie de me marier maintenant, mais je veux... expérimenter le sexe et je veux expérimenter des orgasmes. C'est contre la vie de mon pays. Oui, je sais bien, mais on est des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester vierge, on ne doit pas avoir de sexe. Alors, jusqu'au moment où on va se marier, on n'a pas même le droit d'avoir le sexe, ok? C'est la situation dans laquelle on est mis. Beaucoup de mes amis ont des relations avec un garçon.
Hors mariage.
J'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. J'ai des amis qui boivent de l'alcool. Ce qui est interdit, ça devient intéressant pour toi. Vous savez, l'Iran, c'est l'apparence de l'Iran. Mais sous l'Iran, c'est autre chose. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vraiment ces générations peuvent changer quelque chose ou pas? Mais je crois que d'abord, ce sont les mentalités qui doivent changer. De ceux qui ont la même âge que moi. Il y a un problème en Iran. Et le problème, c'est qu'ici, les relations familiales sont très fortes. Et qui nous empêche d'aller découvrir le monde, qui nous empêche de comprendre, qui nous empêche de savoir. Ça nous fait comme les prisonniers. Je veux changer ma situation. Alors, j'étudie. Mon problème, c'est que je ne peux pas être moi-même. Je veux être moi-même.
Cette francophile vit par procuration à travers les livres et voudrait rejoindre une Europe qu'elle idéalise, Charlie.
Oui, elle refuse de parler politique. Dès qu'on l'interroge un peu plus sur ce qu'elle pense du régime, elle dit ne rien y comprendre. Et puis elle décrit aussi une atmosphère plus libérée à Téhéran qu'ailleurs dans le pays. Et il est vrai que dans les rues de Téhéran, les voiles sont plus relâchées, de toutes les couleurs. Ce sont presque en fait des accessoires de mode assortis aux jeans slim. Une bouffée d'air pour de nombreuses étudiantes venues de la province qui ici sont loin de leur famille et puis moins prisonnières de l'emprise des traditions. À Téhéran, difficile pour la police des mœurs de garder tout le monde à l'œil. La traductrice qui m'a aidée pour ce reportage se vante d'ailleurs d'avoir organisé des fêtes chez elle, à deux pas de la maison du guide suprême. Alors la plupart de ces jeunes filles vivent en dorme, en dortoir étudiant pour filles évidemment. Cela coûte à leurs parents 50 000 tomanes par mois, c'est l'équivalent de 13 euros. L'université est gratuite ici. Dans le couloir de l'un des dortoirs de l'université de Téhéran, voici une étudiante, t-shirt blanc moulant à paillettes et ballerine dorée avec un sourire espiègle.
Je m'appelle Paria, j'ai 26 ans et j'étudie l'ingénierie mécanique ici à l'université. Là, nous sommes au quatrième étage de mon dortoir. J'étais dehors et je rentre dans ma chambre. J'ai très envie de grignoter quelque chose et de me reposer à l'intérieur. Sur ce campus pour filles, il y a une cour assez grande. Et au bout du complexe, il y a un terrain de sport qui fait face à l'autoroute. On peut regarder les voitures passer. Le campus compte aussi une épicerie, quelques boutiques, une boulangerie, une petite salle pour la sécurité et la direction. On a tout ici, même un distributeur de billets.
Donc on est ici dans le bâtiment en fait d'un internat pour filles qui est rattaché à l'université de Téhéran. Ici, vous avez le droit de sortir sans voile à l'intérieur du campus.
Oui, sur le campus, on n'est pas obligé de porter le hijab, car les hommes ne sont pas autorisés normalement. Si certains viennent, on est prévenu par des enceintes réparties sur tout le campus, et on nous laisse quelques minutes pour nous couvrir.
Et ici, alors, dans ce bâtiment, il y a les Basiji, la police des mœurs, qui est présente sur le campus.
Oui, je ne sais pas pour les autres bâtiments, mais dans le nôtre, au premier étage, une salle leur est réservée. Ils sont directement rattachés au bureau du guide suprême.
Peut-être qu'on va rentrer pour en parler un peu plus. Donc on est rentré à l'intérieur de ta chambre.
En entrant dans la chambre, on voit le frigo. Et vous voyez, derrière sur la gauche, il y a mon espace, avec un lit superposé. Mon lit à moi est celui du dessus. À côté, vous voyez mon petit tapis. C'est là où je m'assois en général. Chacune de nous quatre dans cette chambre a son lit, sa table, son étagère et un placard. Et en face de moi, vous voyez notre petit balcon.
Où on voit que tu peux étendre ton linge, ainsi que celui de sûrement de tes colocataires. Qu'est-ce que tu fais ici dans cette chambre ?
Je fais ce que je préfère, je cuisine, je nettoie ou j'étudie.
À propos de ce que tu disais tout à l'heure, la police des mœurs, ici, il faut y faire attention. Quel impact ça a sur ton comportement à toi, sur le campus ?
J'essaie de garder mes distances avec eux. Donc depuis que je suis ici, je n'ai jamais eu de problème. Mais il y a un risque et ça me rappelle cette expérience que j'ai vécue une fois. J'étais habillée de façon très simple, je revenais d'une soirée caritative, j'étais sortie sans même avoir pris le temps de me doucher. Seulement, le bouton tout en haut de mon manteau, c'est comme ça qu'on appelle ici les vestes que nous portons par-dessus nos tenues et qui doivent descendre jusqu'à nos genoux, eh bien ce premier bouton n'était pas attaché. Et alors que j'arrivais devant une station de métro, une femme de la police des mœurs est venue vers moi. J'ai été arrêtée et embarquée en voiture jusqu'à une station de police. Là, ils m'ont fait signer une attestation selon laquelle j'allais mieux m'habiller par la suite et ils m'ont prise en photo.
Et pourtant, aujourd'hui, tu continues de sortir comme ça. Donc, c'est un hijab rouge avec des fleurs violettes. On voit un peu tes cheveux. Tu as un jean assez serré. On voit tes avant-bras, une partie de tes avant-bras.
Oui, je fais en sorte de sentir l'atmosphère. Par exemple, si je vois la voiture de la police des mœurs ou même un homme à l'air conservateur qui me regarde mal, j'essaie de me couvrir un peu plus. Si je suis dans un magasin, par exemple, je vais aller dans un coin pour me recouvrir un peu plus les cheveux, pour resserrer ma veste. Je réagis aussi comme ça quand je sens que je suis vraiment dans une atmosphère très conservatrice, où je sais que les gens prêtent attention à la façon dont les femmes s'habillent et qu'ils pourraient être offensés si je ne me couvre pas assez bien.
Quelle relation amoureuse tu as déjà pu vivre dans ta vie ?
En fait, mon père a toujours été très sensible sur le sujet. Officiellement, il m'a toujours dit « Si tu rencontres un garçon à l'université, si tu veux mieux le connaître pour te marier avec lui, je t'autorise à le fréquenter. » Mais dans les faits, quand j'ai eu mon premier petit ami, un voisin de notre quartier, et que mon père l'a appris, il l'a très mal pris. Il a réagi de façon très agressive et j'ai dû rompre avec le garçon à cause de cela. Ensuite, j'ai rencontré un autre garçon qui venait de la même ville que moi et ça n'a pas marché. Très vite, je n'en ai plus voulu.
Je vais te poser une question peut-être un peu intime, mais est-ce que du coup tu as déjà eu des relations sexuelles avec un garçon ?
Non, je n'ai jamais été aussi intime avec un garçon. Par contre, j'ai déjà enlacé et embrassé mon ex-petite amie. On s'est aussi tenu la main. Mais c'est difficile de ne pas avoir de relations sexuelles. Je n'en ai pas pour ne pas inquiéter ma famille. Je me fiche de savoir si certaines de mes amies ont déjà eu des relations sexuelles. Ce n'est pas ça qui me donne envie. J'ai envie de faire l'amour, je le veux mentalement, physiquement. Et j'en ai rêvé plusieurs fois, la nuit. Et quand tu sors avec quelqu'un qui te plaît et à qui tu tiens, c'est encore plus intense. Parfois, quand on se tenait la main avec mon ancien petit ami, j'avais des sensations étranges. Et c'était frustrant, parce que je ressentais ce besoin, je tenais à lui. Mais on ne pouvait pas trop se rapprocher physiquement l'un de l'autre. Il y avait une limite qu'on ne pouvait pas franchir. Je suis sûre que si je perdais ma virginité avant le mariage, mes deux frères ne diraient rien. Ils s'en ficheraient, autant mon frère aîné que le cadet. Ma mère serait en colère, même si, en vrai, la seule chose qui la préoccuperait vraiment serait que personne ne le sache en dehors de la famille. Mais mon père, là là, il pourrait même avoir une crise cardiaque. Mais je ne peux pas vraiment prédire sa réaction.
Est-ce que du coup, cette situation, cette frustration, te donne envie de te marier le plus tôt possible ?
Bien sûr, cela me donne envie de me marier, mais d'un autre côté, il vaut mieux que je reste plutôt prudente pour ne pas regretter ma décision, pour ne pas me dire ensuite « Zut, j'aurais dû lutter contre moi-même pour ne pas céder et me marier aussi vite ». Alors j'essaie de maîtriser ma frustration, parce que le divorce n'est pas très bien vu dans notre pays. Mais c'est un autre problème.
Paria, 26 ans, étudie l'ingénierie mécanique, une filière qui est très masculine. Alors pour quelle carrière professionnelle ?
Eh bien, ce n'est pas vraiment la bonne question, puisque comme de nombreuses étudiantes que j'ai rencontrées, en fait pour Paria, l'université est seulement une étape en attendant de se marier, ou bien même un lieu de rencontre avec un futur mari. En tout cas, elle ne s'imagine pas travailler, sauf si elle reste vieille fille, c'est ce qu'elle m'a dit. Et d'ailleurs, le garçon idéal pour elle, c'est un homme d'abord et avant tout à l'aise financièrement, bref, un bon parti.
Les femmes constituent les deux tiers des effectifs à l'université, mais seulement une sur cinq travaille en Iran.
C'est ça, mais certaines accordent plus d'importance que les autres à leur insertion professionnelle et puis à leur indépendance financière. Elaye a étudié le management avant d'enseigner l'anglais pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle travaille à Téhéran dans une entreprise de matériel médical. Elle gagne bien plus d'argent que son petit ami qui est écrivain censuré. Dans ses livres, il parle de politique et de sexe, donc deux sujets tabous en Iran. Ils sont en couple depuis 1 an et demi, ils vivent ensemble depuis peu et elle est fière, très fière de nous inviter dans leur appartement. Avec ses lèvres rouges baisées, ses tatouages dans le dos que laisse négligemment entrevoir son débardeur, dans un pays où les tatouages sont interdits, Elaye nous accueille chez elle.
Here we go.
Allez-y, entrez.
Well, this is the apartment where I live with my boyfriend and...
Voici l'appartement où je vis avec mon petit ami. On s'y est installé il y a tout juste 2 mois. Dans le salon, on voit des fauteuils rouges, des canapés rouges, peu de choses accrochées au mur, les murs sont encore blancs.
So it's not really furnished exactly yet.
Non, on n'a pas encore vraiment meublé non plus, mais on y travaille. Pour décrire notre situation, on parle de mariage blanc. C'est l'expression qu'on emploie pour les couples qui s'installent ensemble sans être mariés. C'est un phénomène nouveau en Iran.
My parents are religious.
Mes parents sont religieux, ils ne savent pas que je vis avec mon petit ami. Ils pensent que je vis en colocation. Malheureusement, dans la plupart des familles en Iran, les enfants ne disent pas la vérité à leurs parents. Il vaut mieux leur montrer que tu es une bonne fille, que tu étudies, que tu te maries, et surtout que tu ne causes pas de problème. Aucun parent ne veut d'une fille qui vit seule ou avec son petit ami. Personne ne veut ça. Mais ce qui me dérange, c'est que j'ai 31 ans. Je veux être capable de faire ce que je veux sans avoir à mentir. Mais en Iran, avec un mode de vie comme le mien, il faut mentir à tout le monde. À la famille, mais aussi aux voisins, à votre propriétaire, au gouvernement, à tout le monde. Mais il faut dire que j'ai eu une vie remplie comparée à la plupart des jeunes femmes iraniennes. J'ai eu plusieurs aventures amoureuses, j'ai étudié dans différentes universités, et pendant 3 ans, j'ai même pu vivre seule.
Et comment c'est de vivre seule en Iran, quand on est une femme?
Un grand nombre d'agences immobilières au début refusent déjà de chercher un appartement pour une fille célibataire. La plupart ont en fait peur du scandale, puisque les femmes seules ici sont considérées comme des déchets de la société. C'est vrai que cette vision est très frustrante, mais en même temps, cela me fait du bien de faire partie de ce mouvement, de figurer parmi ces premières générations de filles qui se sont installées seules. Et j'adore faire des choses qui sont taboues. Je pense que nous qui sommes nés en Iran, nous n'avons pas vécu assez par rapport aux filles occidentales.
Qu'est-ce qui a pu te manquer, tu penses ?
Les bonheurs les plus simples que peut-être vous ne pouvez pas vous imaginer, comme marcher dans la rue et sentir le vent souffler dans vos cheveux, souffler entre vos jambes ou sous sa jupe, ou boire un verre sans avoir peur d'être arrêté, parce qu'il suffit d'un voisin religieux ou même simplement un voisin qui ne vous aime pas et qui appelle la police pendant une fête pour qu'elle vienne vous arrêter. Et ça a été très dur pour moi quand j'ai vécu au Brésil. J'ai enseigné l'anglais 2 ans là-bas. J'habitais juste à côté d'une université. Et je voyais ces étudiants de 20 ans assis dans l'herbe en face du supermarché, occupés à boire, à fumer. Ils jouaient de la guitare, ils chantaient, ils s'embrassaient. Et je repensais à mes années d'université à moi, quand on venait critiquer ma tenue ou mon rouge à lèvres. Je regardais ces étudiants brésiliens et je me disais, pourquoi ? Pourquoi suis-je née dans un endroit où on nous prive de notre liberté ? Pourquoi mon pays est comme ça ?
I had the opportunity to go without wearing the hijab like 12 because I was.
Et pourtant, j'ai eu la chance de pouvoir porter le hijab tard par rapport aux autres filles, à l'âge de 12 ans seulement, parce que j'étais tellement petite de taille que j'ai longtemps paru plus jeune que mon âge. Mais j'ai toujours détesté le porter. Surtout qu'ici, on regarde des films et des séries venues de l'étranger. À chaque fois que je porte le voile, je le vis comme une insulte à mon intelligence, à ma personne. Ça me met en colère. Peut-être que je suis lâche, mais je sais qu'on ne peut plus rien faire pour aider ce pays. Si on veut une vie meilleure, il faut juste partir. Et je crois vraiment que n'importe quel pays sera mieux que l'Iran.
On la sent désabusée, découragée tout de même, Elaye, pleine de rancœur.
Oui, d'ici 1 à 2 ans, elle voudrait émigrer au Canada, l'Eldorado de cette jeunesse iranienne qui ne croit plus au changement. Et peut-être que là, elle pourra avouer à ses parents qu'elle a un petit ami, une fois loin d'eux, loin de leur jugement.
Et vous avez ensuite passé la soirée avec elle, Charlie Dupiot et son petit ami qui vous a rejoint.
Oui, dans un pays sans bar, les soirées s'organisent à la maison. Alors on appelle un dealer d'alcool, c'est illégal évidemment, qui ramène de l'alcool fort fait maison ou alors des bouteilles à emporter beaucoup plus onéreuses. On appelle aussi parfois un dealer de cannabis. On se fait livrer parfois des pizzas en commandant sur internet avec Adèle en fond sonore. Et voilà, la soirée commence. Faire la fête en Iran, c'est prendre un risque, surtout quand on consomme de l'alcool. Ces jeunes encourent la prison, même si pour les plus aisés, il suffit de payer une caution pour être libéré. Et Laïe est heureuse de nous montrer cet îlot de liberté qu'elle a su se créer.
On se retrouve tout de suite après le flash, dans 3 minutes sur RFI, 7 milliards de voisins.
On est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Reportage à Téhéran auprès de jeunes iraniennes, dans un pays où le président modéré Hassan Rouhani et artisan de l'accord sur le nucléaire iranien a été réélu pour un second mandat. Avec vous Charlie Dupio, les iraniennes lèvent le voile aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Ces femmes qui changent l'Iran de l'intérieur à coups de fard à paupières, de chirurgie esthétique. L'Iran figure parmi les trois pays champions du monde en nombre d'opérations du nez. Elles contournent les interdits, elles font de leur visage, seules à être visibles dehors, le terrain de leur liberté revendiquée. Alors quel rapport ces femmes ont-elles avec leur corps dans un pays qui veut les cacher? Portrait dans l'intimité à Téhéran. Et nous repartons avec vous, Charlie Dupio, dans la chambre de Paria, étudiante de 26 ans. Elle n'est plus toute seule, cette fois-ci ses colocataires viennent de rentrer. Ambiance chambre de fille.
Salut.
Salut.
Qu'est-ce que vous faites? On dirait que vous vous préparez à aller quelque part. Vous allez où comme ça?
On va voir Ahmad, mon petit ami. J'emmène Somaïe avec moi. Il y aura un des amis d'Ahmad. On va regarder un film au cinéma.
Tant mieux pour vous. J'espère que vous allez vous amuser.
Tu ne veux pas venir avec nous?
Non, je crois que je vais plutôt rester me reposer.
Donc là, ce sont tes colocataires?
Oui, je partage ma chambre avec elles. Elles sont toutes les deux très gentilles et agréables à vivre.
Quel âge vous avez?
Moi, j'ai 26 ans.
Et moi, 27.
Donc là, toutes les deux, vous vous préparez en fait pour un rendez-vous galant, c'est ça?
Oui, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un double date.
Elmira fait beaucoup de blagues à propos de cette soirée.
C'est vrai que j'en ai parlé à tout le monde dans le dortoir. En fait, l'idée vient d'Ahmad, mon petit ami. Il connaît Somaïe et il a envie de la présenter à un de ses amis. Donc on se retrouve tous les quatre. Non, laisse-moi te le faire. Je vais rendre ton teint homogène. Regarde-moi pour voir.
Vous vous maquillez l'une l'autre. Là, vous êtes en train de vous mettre du fard à paupières rose, un peu gris, du mascara. Ça vous arrive souvent de vous maquiller ensemble?
Ah oui, très souvent.
Almira, Ahmad, c'est ton premier petit ami?
Oui, c'est le premier. On est ensemble depuis 6 mois.
Et qu'en dit ta famille?
Ma famille est au courant. Mon frère a même rencontré Ahmad il y a quelques jours. Et dans sa famille, à lui, tout le monde est au courant de notre relation. Car nous allons nous fiancer. Mais malheureusement, ma famille n'a pas encore accepté d'aller rencontrer les parents d'Ahmad pour discuter et rendre tout cela plus officiel.
Pourquoi?
Parce que mes parents sont plutôt stricts pour ce qui a trait à mon éducation. Ils veulent que je finisse d'abord mon master, puis mon doctorat, et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils voudront entendre parler de mariage. On verra bien.
Qu'est-ce que tu étudies?
J'étudie la géophysique, la sismologie plus précisément. Il faut juste que je me mette du rouge à lèvres et c'est bon. Je ne me maquillerai pas plus.
Quelle couleur tu as choisi?
Je veux mettre celui qui est bien rouge. Il ne faut pas qu'on se ressemble trop.
Est-ce que tu crois que je devrais porter ça?
Oui, c'est joli, essaie-le.
Somaïe, là, tu veux essayer une robe qui laisse voir tes bras, en fait, qui a une forme de débardeur sur le dessus, qui est violette et qui a des motifs en fleurs rouges, oranges sur la partie haute. Tu vas sortir comme ça?
J'ai une chemise que je vais mettre en dessous de la robe. Sinon, je ne pourrais pas sortir.
Est-ce que ce n'est pas frustrant de porter cette robe sur une chemise?
C'est frustrant à 100%. De même que j'aime bien m'habiller de façon sportive, urbaine. J'adore par exemple porter un jean et une chemise. Mais je ne peux pas sortir dans la rue comme ça. Il faut que je m'adapte et que je mette quelque chose par-dessus. Surtout si je sors en famille.
En fait, le défi, c'est surtout dans la rue. On aimerait être dehors sans tout ça, en robe, simplement. Et j'ai une nièce qui me demande à chaque fois que je m'habille pour sortir « Tata, pourquoi est-ce que tu dois porter cette veste longue au-dessus de ton chemisier? Avec ton chemisier tout seul, tu es très bien ?»
Oui, mais ce sont les règles, les régulations ici. Il faut les respecter.
Mais parfois, on s'habille d'une façon qui ne respecte pas vraiment la loi. On essaie de faire des compromis et de tourner toutes ces contraintes à notre avantage.
Et de nombreuses femmes iraniennes se font refaire le nez. Est-ce que vous, ça vous a tenté? Est-ce que vous avez tenté l'expérience?
Oui, moi j'ai fait opérer mon nez parce que la génétique m'a légué un grand nez. Mes deux parents ont tous les deux un grand nez. Je ne pouvais rien y faire. Ça allait il y a encore quelques temps, car j'étais un peu plus ronde. Et puis j'ai perdu du poids, et mon nez m'est apparu tout à coup si gros au milieu de mon visage. Alors, pendant ma quatrième année de licence, c'était déjà il y a 4 ou 5 ans, j'ai décidé de me faire refaire le nez. Mais j'ai bien insisté auprès du chirurgien. Je lui ai dit plusieurs fois que je voulais un nouveau nez qui paraisse naturel. Je n'aime pas les nez qui ressemblent à ceux de poupées, ceux dont on voit tout de suite qu'ils sont artificiels. Moi, je tenais à en avoir un le plus naturel possible.
Oui, c'est vrai que beaucoup de femmes font ça ici. J'ai lu que l'Iran se classait parmi les pays avec le plus grand nombre d'opérations du nez.
Oui, mais les Iraniens ont des nez qui sont laids en général.
Et là, ça fait plus d'une heure que vous vous préparez, donc je pense qu'il est temps que vous alliez à votre rendez-vous.
Oui, je pense même qu'on est déjà en retard. On a passé trop de temps à se préparer.
S'acheter des vêtements importables et se faire refaire le nez, c'est finalement la vie des Iraniennes aisées à Téhéran, Charlie.
Oui, et c'est rare d'ailleurs dans les wagons pour femmes des métros de la capitale de ne pas voir un bandage blanc traverser le nez d'au moins une des passagères. Alors chaque opération du nez coûterait près de $400, un peu moins du double du salaire minimum en Iran. Dans l'avion qui m'a amenée à Téhéran, j'étais d'ailleurs assise à côté d'un chirurgien spécialisé dans les rhinoplasties. Il revenait d'un congrès à Milan et me disait s'en sortir très bien, le marché est juteux. Partout sur le visage de ces femmes, on observe une obsession pour la beauté à l'occidentale, jusqu'aux sourcils qui sont parfaitement épilés et éclaircis, parfois en châtain. On donne beaucoup d'importance à son visage et à ses mains. On a des ongles parfaitement manucurés, puisque ce sont les seules parties du corps à pouvoir être montrées. Ces femmes déjouent les règles qu'on leur impose et grappillent de la liberté par-ci par-là.
Et elles se postent en photo sur Instagram, bien sûr.
Oui, souvent avec le voile, mais qui laisse dépasser plusieurs mèches de cheveux. D'ailleurs, si on porte le hijab en ne laissant dépasser aucun cheveu, ou alors même si on se maquille peu, on est tout de suite catalogué conservatrice. C'est ce que m'ont révélé plusieurs jeunes femmes.
Dans le pays, de nombreux réseaux sociaux et sites internet néanmoins sont bloqués.
C'est le cas de Facebook, de YouTube et puis d'autres sites, mais la plupart de ces jeunes femmes utilisent un logiciel en fait sur leur ordinateur ou sur leur téléphone pour contourner cette interdiction et pour accéder à ces espaces de liberté. Elles regardent aussi des séries comme la violente et sensuelle Game of Thrones en décalage complet avec leur vie en Iran.
Mais alors comment ces jeunes femmes se projettent-elles par rapport à la génération de leur mère et même de leur grand-mère en Iran ?
Je suis allée pour le savoir dans une famille qui vit en périphérie ouest de la capitale, un quartier plutôt classe moyenne, avec des barres d'immeubles gris. À l'intérieur, au contraire, une décoration toute en couleurs, ambiance bling bling, canapé pourpre et lustre au plafond. Bienvenue dans un appartement typique de Téhéran, à la rencontre de trois femmes, trois générations et trois histoires de l'Iran.
Servons le thé. Tu t'en occupes ou je le fais ?
Je m'en occupe.
Oui, je préfère. Merci beaucoup, ma chérie.
Oui, merci, ma petite. J'aime bien le thé léger comme ça. Merci pour tout. Merci pour votre hospitalité à toutes les deux.
Je t'en prie, bois ton thé avant qu'il ne refroidisse.
Alors moi, je m'appelle Anahita, j'ai 19 ans.
Moi, je suis Natsi, sa mère. J'ai 46 ans.
Et je m'appelle Ashraf. Je suis la tante de Natsi. J'ai 70 ans.
Ashraf, donc vous êtes la grande-tante d'Anahita. Aujourd'hui, vous avez 70 ans, mais vous avez vécu la révolution de 79, la révolution islamique. Quel âge vous aviez à cette époque ? Et comment vous pouviez vous habiller, vous comporter en tant que femme en public avant la révolution ?
Nous portions tout type de vêtements, des débardeurs, des robes longues, des robes courtes. Ces vêtements, nous les portons encore aujourd'hui, mais seulement chez nous, à l'intérieur ou à l'occasion de fêtes familiales. À l'époque, nous avions aussi des vestes longues qu'on appelle manteaux et qui sont obligatoires aujourd'hui. Mais nous ne portions pas le voile. Je me rappelle être allée à la Mecque à l'époque. Et même là-bas, je n'avais pas besoin de porter le voile. Avant la révolution islamique, pour tout vous dire, les femmes en Iran étaient beaucoup plus libres dans le choix de leur apparence. Elles pouvaient presque être nues, en maillot de bain, je veux dire, au bord de la mer. Elles pouvaient porter des mini-jupes.
au moment de la Révolution, je pense que j'avais 30 ans, je dirais. Quel âge j'avais ?
30 ans.
Oui, je devais avoir 31 ou 32 ans. Mais je n'étais pas totalement dénudée, bien sûr. Après tout, je suis musulmane. Et en tant que musulmane, nous devons nous habiller décemment. Mais avant la Révolution, nous n'étions pas obligés de tout le temps nous couvrir.
Je pense que nos visions à toutes les trois sont différentes. Ma mère et ma grand-tante sont nées avant la Révolution. Le voile leur a été imposé, soudainement. Mais moi, j'ai grandi avec. Je n'ai jamais vécu sans. Elles ont dû faire un effort pour s'habituer à ce voile. Mais pour moi, c'est naturel. C'est pour cette raison que nous ne vivons pas de la même façon le fait d'être obligé de le porter aujourd'hui.
Bien sûr, ma tante et moi avons vécu à des époques différentes de celles dans laquelle Anaïta a grandi. Dans les premières années qui ont suivi la Révolution, notre hijab, notre voile, était beaucoup plus strict. Il fallait qu'il soit plus large et qu'il couvre notre menton. Il devait même être suffisamment long pour descendre jusqu'au ventre. Nous devions aussi couvrir toute l'étendue de nos jambes avec de longues vestes et porter des pantalons amples. Nous n'avions même pas le droit de porter des chaussettes ou des chaussures colorées. C'était vraiment une époque différente par rapport à celle de ma fille Anaïta. Elle ne peut pas comprendre ce que nous avons vécu, ce que nous avons traversé. Même si je lui en parle, elle ne peut pas s'imaginer le contexte dans lequel j'ai grandi. Parce que moi, j'avais 7 ans quand la révolution islamique a eu lieu. J'étais à l'école primaire. Et au beau milieu des plus belles années de ma vie, ils nous ont mis ces hijabs sur la tête. Cela a continué comme ça, et puis j'ai rencontré mon mari, qui vient de la même génération que moi. Mais maintenant, nous avons accepté la situation, le régime. Nos enfants sont plus libres aujourd'hui, ils pensent différemment. Et moi, j'ai la chance d'être éduquée, je suis allée à l'université. J'ai obtenu une licence en littérature perse. À cette époque, il y a près de 25 ans, quand on était une fille à l'université, on ne pouvait même pas parler à ses camarades de classe masculins. Vous imaginez ? On ne pouvait même pas échanger nos notes de cours avec un garçon. Et si on le faisait, il y avait 100% de chances que l'on soit interrogé. On allait nous demander « Qu'y a-t-il décrit sur ces feuilles ? Et de quoi parliez-vous tous les deux ?» Tout ça n'a aucune logique pour moi. Cela n'a rien de rationnel. Je pense que les hommes et les femmes sont faits pour être ensemble, pour vivre côte à côte. Ils s'apportent mutuellement énergie et paix. Mais la jeunesse d'Anaïta ne ressemble pas à celle que j'ai vécue. Je pense qu'elle grandit dans des conditions beaucoup plus faciles et à une période bien meilleure.
C'est vrai, mais je suis allée à la Mecque en Arabie Saoudite en pèlerinage. Là-bas, les femmes étaient cachées derrière de longues robes et de longs voiles. Elles portaient même des gants. La plus grande partie de leur visage était couverte. On ne voyait que leurs yeux. Et pour la plupart d'entre elles, même les yeux étaient cachés par des lunettes de soleil. Parfois, on ne pouvait voir que leur nez. Je me suis dit, Dieu merci, notre gouvernement n'est pas le pire. Comparé à ces femmes, nous avons beaucoup plus de liberté. C'est vraiment terrible en Arabie Saoudite. Les femmes sont dans une situation misérable. Elles n'ont même pas le droit de conduire. Alors qu'en Iran, au moins, nous avons des femmes chirurgiens qui travaillent avec des collègues masculins. Nos filles avancent peu à peu, dans l'ombre des hommes, et vont même parfois plus loin encore. Nous avons plus de femmes diplômées de l'université que d'hommes. Les filles et les femmes iraniennes sont en train de conquérir de plus en plus leur place dans la société. Elles sont vraiment géniales et sages.
trois générations, trois regards dans cet appartement de la classe moyenne à Téhéran.
Et Anaïta, la jeune fille qu'on a entendue qui a 19 ans, fait du vélo avec ses amis. Ce n'est pas officiellement interdit par la loi, mais il arrive souvent que la police des mœurs use de son pouvoir pour faire descendre les femmes de leur vélo. Mais dans ces mêmes rues, un grand nombre d'habitants de Téhéran, hommes et femmes, abordent les touristes tout sourire à coups de « Welcome in Iran », »,« Bienvenue en Iran ». Un homme d'ailleurs croisé dans la rue à Isfahan m'a même dit « Nous ne sommes pas les méchants que vous imaginez ». On sent comme un besoin de se justifier, de se défendre, peut-être un héritage des années Ahmadinejad.
Et vous avez rencontré, Charlie Dupio, une jeune femme qui porte le voile, elle, vraiment par conviction religieuse.
Elle s'habille de façon en fait plutôt traditionnelle, jupe longue noire et veste rose pâle. Elle voyage tout le temps en Iran grâce au site Couchsurfing, vous savez, cette communauté qui permet de dormir chez les uns et chez les autres. En Iran, c'est une communauté vraiment très particulière puisque les jeunes Iraniens qui accueillent des gens chez eux voyagent ensuite ensemble en groupe à travers tout le pays. Son mari est au courant que je la rencontre. Il propose même de quitter l'appartement pour nous laisser parler entre femmes et c'est tant mieux.
Avant cette relation amoureuse, j'ai toujours eu plein d'activités différentes, sportives, comme le surf ou la nage, avec un masque et un tuba. J'ai toujours aimé avoir de nouvelles expériences. C'est un désir infini chez moi. Quand j'étais plus jeune, plusieurs garçons ont demandé ma main, traditionnellement, à mes parents. Mais je ne voulais pas vraiment me marier à ce moment-là, parce que j'avais peur de perdre ma liberté. J'ai toujours grandi avec une certaine liberté au sein de ma famille. Mes parents m'ont donné le droit de faire de petits voyages en Iran pendant plusieurs jours. Ils m'ont même laissé voyager deux fois à l'étranger. Et j'ai pu faire beaucoup de choses, malgré mon hijab, et même avec cette tenue traditionnelle que j'aime porter. Et je veux toujours, encore aujourd'hui, tenter de nouvelles expériences. Par exemple, je rêve de faire du saut à l'élastique. Mais mon mari est inquiet et il me dit « Et si la corde se rompait ? Qu'est-ce que je vais faire, moi, si quelque chose t'arrive pendant l'une de ces aventures dans lesquelles tu veux encore te lancer ?» Alors, pendant un temps, je me suis demandé si je n'avais pas épousé la mauvaise personne, si je n'allais pas finir par être malheureuse dans mon mariage. J'ai vraiment eu cette crainte au début. Non seulement l'homme que j'avais épousé ne partageait pas les mêmes passions que moi, mais en plus, au début, j'ai eu peur qu'il ne me laisse pas travailler, parce que mon travail de traductrice, en farsi et en arabe, est aussi très important pour moi. Heureusement, je peux encore le faire, mais de chez moi. Mais il y a une chose que vous ne devez pas dire à mon mari Ibrahim du tout, disons que cela restera entre nous, c'est que parfois j'aimerais revenir au temps où je n'étais pas encore mariée. Et il y a beaucoup de choses dont j'aurais dû faire l'expérience avant de me marier. Et je ne l'ai pas fait. Et c'est trop tard, parce qu'en étant mariée avec lui, je dois faire une croix dessus. Parfois j'aimerais pouvoir revenir en arrière, retrouver cette belle époque où j'étais plus libre. Mais je dois aussi dire qu'il y a quand même beaucoup de choses dont je suis satisfaite. Mon mari est un vrai soutien pour moi. Avant, quand je voyageais avec des amis rencontrés au couchsurfing, je devais toujours être responsable de moi-même. Je devais me gérer seule. Mais maintenant, j'ai quelqu'un qui peut me soutenir et avec qui je me sens plus en sécurité. Parfois, pendant les petits week-ends que nous faisons tous les deux hors de Téhéran, on se dispute, on ne se parle plus. Mais quand même, je me sens plus calme et plus en confiance avec mon mari près de moi. Il y a des voyages que je n'aurais pas osé faire seule, et je les ai faits grâce à sa présence.
Dans quel genre d'endroit est-ce que votre mari ne vous laisse plus aller ?
Je dois presque aller partout avec lui. Bon, pour rendre visite à mes amis filles, ou alors à mes parents, je peux être seule. Mais pour les autres membres de ma famille, par exemple, ou des gens plus éloignés, c'est très rare qu'il me laisse y aller sans lui, sauf si vraiment il ne peut pas m'accompagner. Et je ne peux pas non plus me rendre seule chez les amis que nous avons en commun, si certains sont des hommes. Pour leur rendre visite ou pour voyager dans le pays, maintenant, il faut que je sois avec lui.
Comment vous voyez les femmes qui, en Iran ou ailleurs, n'adhèrent pas à votre conception du mariage et refusent d'obéir à leur mari, préfèrent rester indépendantes ? Qu'est-ce que vous en pensez de ces femmes-là ?
Chacun a son opinion. C'est normal que nous ne partagions pas toutes la même vision. Et moi, c'est vrai que j'avais aussi ce point de vue-là avant de me marier. J'ai longtemps pensé, et d'ailleurs je l'ai aussi dit à mes amis, que jamais je ne laisserai quelqu'un, y compris mon mari, me dire ce que j'avais le droit de faire ou pas. À l'époque, je refusais que quiconque me donne des ordres. Quand j'étais jeune, j'étais assez ferme sur le sujet. Mais je pense que c'est aussi une affaire d'âge. Quand j'ai grandi et quand j'ai commencé à être en âge de me marier, mes amis m'ont dit que j'avais des traits de caractère trop masculins, quand j'étais plutôt indépendante et que ma famille m'avait laissée relativement libre, comme un garçon. Et c'est pour cette raison que je n'acceptais pas qu'on m'ordonne quoi que ce soit. Mais mes amis m'ont dit, « Si tu veux pouvoir te marier, il faut que tu sois une femme, car un homme va avoir une femme à ses côtés. » Tout comme une femme veut être aux côtés d'un homme. Alors il faut que tu adoptes les traits de caractère d'une femme. Et l'un de ces traits de caractère, c'est de suivre tes projets, en prétendant que tu attends l'avis de ton mari avant de prendre chacune de tes décisions. C'est de la diplomatie féminine. Et cela peut sonner un peu cliché, mais je pense que mes amis ont raison. C'est un fait qu'ici les hommes ont besoin de sentir qu'ils sont les maîtres de la maison, qu'ils ont le dernier mot. C'est une fierté pour eux. Alors, à mon avis, quand tu es une femme ici, tu peux agir comme tu veux, mais respecte aussi la volonté de ton mari, d'une certaine façon.
Fatima rêve d'avoir 7 enfants et un camping-car pour continuer à voyager en famille.
Oui, et on voit que chacune de ces femmes revendique leur liberté, mais aucune n'en a la même vision. Elles s'accommodent de leur situation en se disant « je suis un peu libre et je le serai sûrement de plus en plus ». Mais certaines s'engagent plus que d'autres, comme cette jeune femme bénévole au sein d'une association qui vient en aide à des migrants afghans, entre autres.
Je suis en train de prêter des livres de la bibliothèque de cette école autogérée à des étudiants migrants. Ils sont en train d'apprendre à lire. Je suis bénévole ici pendant mon temps libre et sinon j'étudie la sociologie. Je viens d'une famille plutôt religieuse. Certains membres de ma famille appartiennent au clergé du pays. Et ma mère, jusqu'à ce que j'atteigne un certain âge, a longtemps été stricte au sujet de mon apparence vestimentaire. Elle ne me laissait pas porter des voiles colorées et elle m'encourageait autant qu'elle le pouvait à porter des tchadors noirs. Mais je pense qu'elle a abandonné quand je lui ai dit que je ne croyais en aucune religion.
Vous vous diriez athée ?
Even more than that, I think I'm quite...
Même plus que ça, je dirais que je suis anti-religion, pas seulement athée.
Qu'est-ce que c'est d'être athée en Iran ?
There is the chance of receiving the life sentence.
Il y a le risque d'être condamné à mort si jamais on affirme ouvertement qu'on n'est plus musulman. Bien sûr, il faut cacher son athéisme en permanence. Et même si, par exemple, on veut rejoindre un conseil d'étudiants à l'université, on nous demande de remplir un formulaire dans lequel il faut reconnaître que l'on croit en Dieu et que l'on respecte les obligations de l'islam. J'ai étudié d'abord à l'université de Kashan, une ville au centre du pays. Puis, quand j'étais en troisième année en pleine licence, il y a eu les élections de 2009. On était tous épuisés du président Ahmadinejad, candidat à sa réélection. On avait peur de voir notre pays au bord de la guerre. Mais il a été réélu et on a lancé ce qu'on a appelé le mouvement vert.
Parce que énormément de personnes avaient manifesté au moment des résultats.
Oui, on se posait beaucoup de questions à ce sujet sans avoir de réponse. Les résultats étaient contestés et a alors commencé un an de bain de sang et de violence.
Et vous, quel a été votre rôle, votre participation à ce mouvement ?
Yeah, of course, we went to the street and I got beaten in my birthday.
Bien sûr, je suis descendue dans la rue avec les autres et j'ai même été frappée à coups de bâton le jour de mon anniversaire par des agents privés qui avaient été payés. Selon certaines statistiques, 100 personnes ont alors été tuées au cours de ces manifestations. Moi, j'ai été exclue de l'université comme beaucoup d'autres amis. J'avais aussi organisé à ce moment-là des grèves étudiantes, mais ces grèves concernaient surtout des problèmes d'étudiants, ce n'était même pas de la politique. Mais on m'a étiquetée fauteuse de troubles et 4 ans plus tard, il y a eu un changement de président, Hassan Rouhani a été élu et j'ai eu le droit de réintégrer l'université.
Et quel impact tous ces événements ont eu sur votre engagement ?
Je ne soutiens plus le camp réformiste. Et même le président réélu, Hassan Rouhani, lui-même ne se dit plus réformiste. Il se dit modéré comme s'il se voulait dans l'entre-deux. Pour moi, les élections, le vote, cela n'a plus aucun sens. Et tout comme le monde a eu honte de l'apartheid ou de l'esclavage, l'Iran aura honte de cette période de son histoire un jour, cette période que nous vivons. Les femmes sont officiellement considérées comme des citoyens de second rang ici. Les seules qui peuvent se permettre financièrement de partir à l'étranger sont les plus chanceuses. D'autres sont arrivées à la conclusion que cela ne vaut plus la peine de se battre.
Et cette jeune femme, Shirin, c'est son prénom d'emprunt, est aussi bisexuelle.
Oui, elle a plusieurs amis homosexuels. J'en ai rencontré un qui approche la trentaine. Il m'a parlé d'un parc à Téhéran qui serait en fait un lieu de rencontre des gays, des transgenres du pays. Les applications de rencontres entre gays comme Grindr sont même autorisées en Iran, ce qui est assez étonnant. Mais le plus dur reste bien sûr de l'assumer au sein de sa famille. Lui, il a dit à ses parents, qui n'en ont jamais reparlé, mais qui au moins ne l'ont pas chassé de chez eux, comme cela a pu arriver à certains de ses amis. Et puis sur la situation actuelle de son pays,
pays, voici ce qu'il m'a dit hors micro. Je vais le citer. Au début, je croyais que toute cette société souterraine, jeune, avide de liberté qui se développe en Iran, allait rapidement remonter à la surface et renverser le régime. Aujourd'hui, j'ai compris que ça allait prendre beaucoup, beaucoup de temps.
C'était un reportage de Charlie Dupiot. À la réalisation, Hugo Violas. Demain, 7 milliards de voisins. Nous parlerons d'éducation comme chaque vendredi, comment moderniser la façon d'enseigner, l'innovation a-t-elle toute sa place dans l'école? À demain les voisins!